VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 8 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, l'OMS se dit encouragée par les progrès réalisés dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'Est.
RDC toujours, l'ONU a entrepris d'élaborer une stratégie de retrait progressif de ses casques bleus.
Au Cameroun, l'avocate Michel Ndoki, proche de l'opposant Maurice Kamto, a été inculpée hier et transférée à la prison principale de Yaoundé.
Ici aux États-Unis, un juge fédéral en Virginie a condamné Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne du président Donald Trump, à près de 4 ans de prison.
Et la Chambre des représentants a adopté une résolution condamnant les discours de haine après des propos controversés d'une députée musulmane sur Israël.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'Organisation mondiale de la santé est optimiste au vu des progrès de la lutte contre Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, où une épidémie a déjà provoqué 569 décès. C'est du moins ce qu'a laissé entendre hier à Kinshasa le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, en visite en RDC. Compte rendu de Jacques Aristide.
La déclaration prend à contre-pied les craintes de l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, qui a jugé le même jour que la riposte ne parvient pas à prendre le dessus et à maîtriser l'épidémie. Mais le tableau n'est pas aussi sombre pour Madame Moeti. Sur les 19 zones touchées par l'épidémie, dit-elle, plus de la moitié n'ont pas enregistré de nouveaux cas depuis 21 jours, ce qui nous encourage beaucoup, même si nous devons rester prudents. Elle précise que la maladie a également pu être contenue à l'intérieur de la RDC sans toucher les pays voisins. Dr Matshidiso Moeti fait partie de la délégation de l'OMS conduite par son directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, venu faire le point de la situation de la 10e épidémie d'Ebola en RD Congo, déclarée le 1er août de l'année dernière. La lutte a été perturbée à maintes reprises par des attaques de groupes armés dans les régions du Nord Kivu et de l'Ituri, des attaques qui ont contraint MSF à suspendre ses activités anti-Ebola à Katwa et Butembo.
Concernant justement la situation sécuritaire en RDC, l'ONU a entrepris d'élaborer une stratégie de retrait progressif de ses casques bleus qui pourrait se traduire à moyen terme par de premiers ajustements et changements de priorité. Après l'élection d'un président, une ouverture de l'espace politique et une amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs régions, nous allons ajuster progressivement la MONUSCO tant que dans sa taille que dans sa mission et sa présence, a indiqué un responsable de l'ONU sous couvert d'anonymat.
Au Cameroun, l'avocate Michel Ndoki, proche de l'opposant Maurice Kamto, a été inculpée hier pour rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Elle a été transférée à la prison principale de Yaoundé. Irénée Herman Ungbo fait le point.
Arrivé au tribunal militaire de Yaoundé, Maître Ndoki, arrêté le 26 février, puis placé en garde à vue, a été inculpé des mêmes faits imputés à Maurice Kamto. Lors des manifestations du 26 janvier, Michel Ndoki avait été blessé. L'avocate également cadre du MRC s'était fait remarquer mi-octobre en plaidant devant le Conseil constitutionnel pour dénoncer les fraudes massives et systématiques dont le camp de M. Kamto s'estime victime et ayant abouti à la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle. Maître Ndoki a été placé en détention provisoire à la prison principale de Kontengi à Yaoundé, le pénitencier où se trouve M. Kamto. Dans le même temps, une demande de libération immédiate déposée par les avocats de Maurice Kamto a été rejetée par la justice camerounaise. Mardi, l'Union européenne avait dénoncé l'ouverture de procédures disproportionnées contre M. Kamto et ses sympathisants. Des propos suivis par ceux du secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, Tibor Najd, qui a indiqué qu'il serait très sage de le libérer.
Au Nigeria, des milliers de femmes qui ont survécu à l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le nord-est sont toujours victimes d'abus et de négligence de la part des autorités, a dénoncé ce vendredi Amnesty International dans un communiqué à l'occasion de la Journée internationale des femmes. En mai 2018, l'ONG de défense des droits de l'homme avait publié un rapport accablant sur la situation dans les camps de déplacés, accusant l'armée et les milices d'autodéfense engagées à ses côtés d'avoir séparé les femmes de leurs époux et de les avoir enfermées dans des camps annexes isolés pour les violer. L'armée avait vivement démenti ces accusations, les qualifiant de mensonges.
À noter dans le cadre de la lutte contre le terrorisme djihadiste que le général Thomas Waldhauser, commandant d'Africom, le commandement américain en Afrique, doute que le Pentagone puisse compléter ses projets de réduction de 10% de ses forces sur le continent. En novembre dernier, le ministère américain de la Défense avait promis de réduire de 700, avant juin 2020, le nombre de ses militaires estimé à 7200. Ces réductions, avaient expliqué les officiels, visaient à optimiser les forces spéciales dont on pourrait potentiellement avoir besoin à l'avenir face à des concurrents comme la Russie ou la Chine. Déposant hier devant le Congrès, le général Waldhauser a dit avoir déjà réduit de 300 ses forces en Afrique, mais que les commandants semblent repenser le retrait des 400 autres.
En Algérie, on s'attend aujourd'hui à d'importantes manifestations contre la candidature en cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a d'ailleurs mis en garde hier contre une possible infiltration de la contestation susceptible de provoquer, selon lui, le chaos. Bagassi Koura.
Dans un message publié par l'agence de presse officielle APS, le président Bouteflika salue d'abord la maturité de ceux qui manifestent depuis le 22 février en Algérie pour, je cite, « exprimer pacifiquement leurs opinions », mais il n'a jamais évoqué le mot d'ordre principal, le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle. Il appelle ensuite, je cite, « à la vigilance et à la prudence quant à une éventuelle infiltration de cette expression pacifique par une quelconque partie insidieuse de l'intérieur ou de l'extérieur qui pourrait susciter la fitna, c'est-à-dire discorde, et provoquer le chaos ». Fin de citation. Confronté depuis qu'il a annoncé sa candidature à une contestation inédite depuis qu'il a été élu pour la première fois en 1999, M. Bouteflika n'a pas expliqué qui était susceptible d'être cette partie insidieuse. Son message a été publié à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars qui coïncide avec un troisième vendredi de mobilisation à travers le pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, un juge fédéral en Virginie a condamné Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne du président Donald Trump, à près de 4 ans de prison pour fraude fiscale et bancaire. C'est nettement moins que les 19 à 21 ans qu'auraient souhaité les procureurs. Monsieur Manafort est âgé de 69 ans. Pour le juge T.S. Ellis, une telle sentence aurait été excessive. Il a aussi souligné que le prévenu n'était pas jugé en raison du principal objectif de la mission du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. À noter qu'un autre tribunal, celui-là à Washington, doit prononcer la semaine prochaine sa sentence contre Paul Manafort dans un dossier parallèle.
Et la Chambre des représentants a approuvé hier à une très large majorité une résolution condamnant les discours de haine après des débats houleux au sein du Parti démocrate sur l'antisémitisme provoqué par les propos de l'élu musulman démocrate Ilhan Omar concernant le soutien des États-Unis à Israël. Le texte ne la mentionne pas spécifiquement et Ilhan Omar a voté pour. Il condamne l'antisémitisme comme une expression odieuse d'intolérance contradictoire avec les valeurs et les aspirations qui définissent le peuple américain et condamne les discriminations anti-musulmanes ainsi que l'intolérance contre toute minorité. Ilhan Omar avait dénoncé la semaine dernière le fait que certains lobbies et parlementaires encourageaient à faire allégeance en pays étranger. Une allusion claire à AIPAC, un puissant lobby pro-israélien aux États-Unis, et à Israël lui-même.
Selon un haut responsable américain qui a requis l'anonymat, les États-Unis pensent toujours pouvoir aboutir à la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord d'ici à la fin du mandat du président Donald Trump en janvier 2021, et ce, malgré l'échec de son dernier sommet avec Kim Jong-un. Ce responsable a aussi affirmé, selon l'AFP, que Washington réclamerait à Pyongyang des clarifications sur les raisons de la reconstruction d'un site de lancement de fusées posée, tout en assurant que l'administration américaine n'était à ce stade parvenue à aucune conclusion précise sur ce qui se passe là-bas. Il a rappelé que le président Trump serait très très déçu s'il s'avérait que cette reconstruction était un revirement par rapport aux engagements. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minuteco, Nani Talani.
1,5 milliard de francs CFA, c'est la somme que le groupe singapourien Olam International a versé comme acompte au cotonculteur tchadien. Ce versement constitue la première tranche d'un montant total de 6,6 milliards de francs CFA que la société doit aux cultivateurs de coton. La Tribune écrit que la deuxième tranche devrait être versée au début du mois de mai prochain, période des semis. Les cotonculteurs espèrent que ce règlement de la dette leur permettra d'avoir plus de moyens pour la campagne 2019-2020 afin d'augmenter leur production. L'Éthiopie bénéficie de 500 000 dollars de la Société financière internationale qui veut investir au profit des femmes entrepreneurs à travers Gebeya, une académie de formation en génie logiciel et en informatique. Ecofin, qui rapporte l'information, indique que cet investissement servira à la formation de 250 femmes développeurs de logiciels. Des financements de démarrage dont les montants n'ont pas été précisés seront également accordés à une vingtaine de femmes entrepreneurs orientées dans le secteur du numérique. Terminons avec la direction générale de MTN qui veut pousser la société vers les services financiers mobiles, la diffusion de musique en continu et les jeux mobiles, misant sur une jeune population en pleine croissance, férue de technologie pour compenser la chute des prix des services de télécommunications de base. MTN évalue à 40 milliards d'euros ses investissements dans les sociétés de tours et les plateformes de commerce électronique telles que les détaillants en ligne africains Jumia.
À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Arsenal et Séville déchantent en Ligue Europa.
Oui, les Gunners sont coulés à Rennes 3-1 et les Andalous se sont fait accrocher par le Slavia Prague 2-2. Wissam Ben Yedder a eu besoin de 25 secondes pour inscrire son 7e but dans la compétition cette saison, pour revenir en tête du classement des buteurs et mettre Séville sur la bonne voie. À Francfort, Kevin Trapp a arrêté un pénalty contre l'Inter Milan pour arracher le nul 0-0. Enfin, le Zénith Saint-Pétersbourg s'est incliné chez lui face à Villarreal 3-1, tandis que le Dynamo Zagreb a maîtrisé le Benfica Lisbonne 1-0.
L'UEFA ouvre une enquête sur Manchester City.
Oui, l'UEFA enquête sur plusieurs violations présumées des règles du fair play financier par les Sky Blues. Le champion d'Angleterre en titre était avec le Paris Saint-Germain, l'un des clubs pointés du doigt par les Football Leaks. Les révélations sur les dessous du foot business, selon l'enquête réalisée par un consortium de journaux européens, le PSG et Manchester City auraient été couverts par l'UEFA pour contourner les règles du fair play financier. Pour rappel, le fair play financier interdit à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu'il gagne. Les sanctions peuvent aller du simple blâme jusqu'à l'exclusion des compétitions.
Di Francesco limogé de l'AS Rome.
Oui, l'élimination à Porto, mercredi en 8e de finale de Ligue des Champions, lui a été fatale. L'entraîneur Eusebio Di Francesco a été limogé hier par l'AS Rome, 5e du championnat d'Italie et éliminé de la Coupe nationale. Arrivé chez les Romains en 2017, Di Francesco restera l'homme de l'épopée de la précédente Ligue des Champions. La Roma avait atteint les demi-finales pour la première fois depuis 1984 en réussissant un comeback des plus inattendus en quart de finale contre le FC Barcelone, selon la presse italienne. Claudio Ranieri, libre depuis son bref passage à Fulham, serait la cible numéro 1 de la Roma. L'Italien, ancien coach de l'AS Rome entre 2009 et 2011, aurait la lourde tâche de faire remonter le club dans le top 4 national qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions.
Lionel Messi, de retour en sélection d'Argentine.
Oui, le quintuple Ballon d'Or fait son retour après 8 mois d'absence et à 3 mois du début de la Copa América au Brésil. Le nom de Lionel Messi apparaît sur la liste des footballeurs convoqués pour les matchs amicaux contre le Venezuela le 22 mars à Madrid et le Maroc le 26 à Tanger. La dernière sélection de la Pulga remontait au 8e de finale du Mondial 2018, perdu contre la France 4-3, et à l'issue duquel l'attaquant du FC Barcelone s'est mis en retrait de l'équipe nationale. À 31 ans, Messi rêve de remporter un grand championnat avec l'Albicéleste. En dehors du titre olympique avec les Espoirs, Messi n'a encore rien gagné avec la sélection. Il a échoué en finale du Mondial 2014 et de Copa América en 2007, 2015 et 2016. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Eh bien, parmi les deux matchs d'hier soir, il faut surtout signaler la victoire des Milwaukee Bucks sur les Indiana Pacers, 117 à 98.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée ce jeudi 8 mars, nous poursuivons notre série sur leurs conditions de vie dans de nombreux pays africains, dans nombre de pays africains. Ce matin, le Togo et le Burkina Faso. Nous aurons aussi Mounima Houssein Darar, une des 10 femmes ayant reçu le prix de la femme de courage décerné par les États-Unis. Commençons par le Togo pour vous parler d'un challenge assez particulier qui vise à renforcer la solidarité féminine. Force assistas, qui est un mot composite d'italien et d'anglais, veut dire force aux sœurs. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Les femmes sont les fossoyeuses de la gente féminine. Cette idée reçue continue de saper la lutte pour l'émancipation des femmes. Pour déconstruire ce préjugé, en juin 2018, la blogueuse togolaise Mika Fiakwe a initié sur les réseaux sociaux le challenge Force Assistance. Le dit challenge consiste à parler du parcours de jeunes femmes togolaises, une manière de les faire découvrir au grand public.
Force Assistance, c'est un challenge où il s'agissait en fait pour les femmes de présenter 3 autres femmes, présenter leurs actions dans l'entrepreneuriat, dans la défense des droits humains, etc. et de dire pourquoi est-ce que ces femmes nous inspiraient ou pourquoi est-ce qu'on les admirait. Ensuite, vous devez encore choisir 3 autres femmes pour qu'elles fassent le même exercice. Alors, j'ai nominé Judith Baliboa qui est une conseillère en images.
Judith Baliboa Larrey parle de l'impact de ces challenges sur sa vie professionnelle.
J'étais même pas sur place lorsque Force Assistant a été lancé sur la toile. J'étais un peu déconnectée pendant des jours. Puis un jour, lorsque j'ai fini par me connecter, j'ai vu le truc. Et puis je voyais que ça parlait des femmes qui faisaient des choses vraiment très très intéressantes. Et je suis tombée aussi sur des personnes qui ont parlé de moi. Et vraiment, c'était très impressionnant. Ça donnait même la chair de poule. C'est un peu comme si on apprenait à se connaître soi-même. J'avoue que ça a apporté un coup sur ma profession. Et ça m'a un peu mise en avance aussi parce que beaucoup de personnes m'ont connue à travers ces postes.
Les femmes togolaises sont appelées à renforcer la solidarité afin de mettre fin à la rivalité au sein de la gente féminine. Fallon Alonion, une sista.
Force Assistant, c'est le fait d'être ensemble avec la même idéologie, de faire les mêmes combats, de se soutenir, peu importe le domaine dans lequel chacune de femmes évolue. Déjà, voir une amie écrit sur soi, c'est motivant dans le sens où on ne veut pas décevoir cette personne, on veut pouvoir continuer à être cette personne que l'autre voit, surtout être solidaire. Et ce qui est formidable, c'est cette nouvelle génération qu'on est, qui croit en l'autre, qui veut voir l'autre réussir, qui veut être avec l'autre.
Cet engagement des femmes à se soutenir doit aussi inspirer les hommes, pense Didier Kissodé, qui se définit comme un ambassadeur du genre.
Force Assistant a apporté un changement de mentalité à l'endroit du genre féminin et aussi du genre masculin. Un exemple vraiment palpable de le faire également entre nous, les hommes, puisque il y a un sérieux problème d'ego masculin qui s'oppose dans le soutien qu'on peut faire à un autre homme. Et je pense qu'avec cette solidarité, il y a une force unie qui est créée.
La communauté des sistas est composée aujourd'hui d'une 50aine de jeunes dames qui se serrent les coudes pour pouvoir impacter leur génération.
Force Assistance a permis aussi de voir que la solidarité, en réalité, elle est possible si on se donne les moyens pour. On s'est rendu compte qu'on pouvait pas avoir d'impact en rang dispersé. Ensemble, on va y arriver.
Force Assistance, c'est vital pour nous, en fait. Nous, femmes, nous devons nous entraider.
Force Assistance, c'est un mélange de 2 langues. Donc, Forza pour force en italien et Sistas pour dire sœur en anglais. Et donc, Forza Sistas pour dire force à nos sœurs.
Force à vous, les sœurs. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
<t'-> Au Burkina Faso, retour sur les femmes dans le cinéma. Au FESPACO, qui vient de célébrer son cinquantenaire, aucune réalisatrice n'a pu, en un demi-siècle, soulever le précieux trophée, l'étalon d'or de Yenenga, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
En 50 ans d'existence, le trophée tant convoité de la plus grande compétition du cinéma africain échappe toujours à une main féminine.
50 ans sans une seule femme étalon de Yenenga, c'est grave.
Kadi Traoré, réalisatrice, productrice.
Je pense que c'est dû aussi au fait que les femmes ne sont pas assez représentées. Quand on regarde le nombre de réalisateurs par rapport au nombre de réalisatrices, il y a vraiment un grand fossé. Mais j'ai constaté que cette année, les femmes étaient quand même là. Et elles ont eu pas mal de trophées aussi. Le combat reste à mener encore pour les talents.
Et ce critique de cinéma n'est pas du tout d'accord.
On ne peut pas dire, bon, ça fait 50 ans, madame, prenez un étalon, allez-y à la maison. Non.
Abraham Bailly.
La compétition est ouverte aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, même de plus en plus, il est plus facile pour les femmes d'avoir les financements que pour les hommes. Puisque la plupart des institutions, telles que l'Union européenne, l'OIF ou plus, donnent facilement à la gente féminine. Je trouve vraiment que c'est un faux débat. Parce que la création artistique, pour moi, Abraham Bailly, n'a pas de sexe.
Et pourtant, ce problème de financement serait un véritable frein pour les réalisatrices, selon Valérie Kabore, une autre réalisatrice et productrice.
Il faut qu'on travaille davantage. Il faut qu'on nous donne aussi la latitude d'être présente, parce que quand il y a une commission, par exemple, pour compéter déjà et puis avoir le budget, les hommes, comme ils sont plus nombreux, ils ont plus de projets. Peut-être que, quelque part, dès le financement, s'il y a une discrimination, j'allais dire positive, ça peut nous permettre à toutes d'avancer parce qu'on a fait les mêmes écoles.
Pour cette comédienne burkinabé, l'un des problèmes des femmes, c'est qu'elles cèdent vite au découragement.
Les femmes ne se battent pas assez.
Aïki Tayara.
J'ai écouté un jour à la radio une réalisatrice qui disait qu'elle n'est pas prête à abandonner son mari et ses enfants pour aller à la recherche de financement. Tu peux pas rester sous ton hangar et puis avoir les financements. Il faut se battre aussi comme les hommes. Je pense que les femmes baissent vite les bras.
Pour le palmarès 2019 du FESPACO, les femmes se sont bien comportées en termes de distinction. Pour la première fois dans l'histoire du festival, un étalon d'or de Yenenga a été institué dans la catégorie documentaire. Et c'est une femme, la Burkinabé Aïcha Bourou, qui l'a remporté avec le loup d'or de Balolé. La voie est donc ouverte pour les femmes. Pourquoi pas dans les prochaines éditions, l'étalon d'or de Yenenga. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Moumina Hossein Darar, 28 ans, fait partie des 10 femmes ayant reçu le prix de la femme de courage décerné par les États-Unis. Elle est la seule femme chargée d'enquête dans la cellule antiterroriste de la police nationale de Djibouti. Ekia Badou l'a rencontrée au département d'État hier à Washington après une cérémonie de remise de prix.
Je ne m'attendais pas à ces prix, mais je suis très fière d'être parmi ces femmes de courage qui ont fait preuve de leur travail.
Alors vous êtes très fière d'être parmi ces femmes de courage. Est-ce que vous nous parlez un peu de ce métier que vous faites, qui n'est pas un métier où on trouve forcément beaucoup d'hommes?
En fait, premièrement, je suis née d'une famille nombreuse d'hommes. Je suis seule et j'ai une petite sœur encore. J'ai six autres frères, c'est pour ça que je suis entourée des hommes. Et c'est facile pour moi de continuer ce travail, d'engager avec mes collègues.
Dans un pays où les femmes ne sont pas toujours mises en avant, est-ce que ça a été facile pour vos frères de vous encourager, pour votre maman de vous encourager vers cette voie?
Premièrement, ma mère et mes petits frères plutôt. Elles sont très fières que j'effectue cet emploi et ils m'encouragent.
Djibouti aussi est fier de vous. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes pour les encourager aussi à ne pas avoir peur et à faire des métiers qui ne sont pas forcément là où on les attend? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour qu'elles puissent aussi voir votre exemple comme un autre modèle?
Je vais les dire à les femmes djiboutiennes. Surtout, nous avons une tradition qui dit que les femmes doivent rester au foyer. Je veux dire que cette proverbe n'est pas valable. Il faut continuer, il faut sortir de la maison, il faut partir en avant. La femme peut persévérer. La religion ne nous empêche rien. L'encouragement de celle-ci pourrait contribuer énormément à l'éradication de la planète, de ce fléau appelé communément terrorisme et qui est conduit par une minorité de religieux de tous bords qui viennent imposer par la force l'ère vidéo de notre âge.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers la lutte contre le terrorisme?
C'est venu très jeune pour moi.
Pourquoi?
Parce que le terrorisme est un fléau international qui n'a pas de religion, qui n'a pas de religion particulière. Donc, lutter contre ce terrorisme, et nous sommes aussi localisés dans une zone qui est plutôt occupée par ce terrorisme.
J'ai vu que vous travaillez dans une ONG, vous avez aidé des familles où il n'y avait pas beaucoup de revenus. Comment faire pour vous aider encore à aider d'autres familles?
En fait, c'est une petite association qu'on a récemment créée, moi et mes collègues. Donc, cette association n'a pas encore un statut. On va lui faire un statut. C'est aider les gens orphelins et les pauvres, surtout les enfants, femmes et hommes.
Moumina Hussein Darar, un des prix Femmes de Courage décernés par les États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Pour terminer, un rappel, et ça concerne la Côte d'Ivoire, dont le Parlement a un nouveau président depuis hier. Amadou Soumaoro, ancien ministre et secrétaire général du RDR, la formation du président Alassane Ouattara, a été élu ce jeudi en remplacement de Guillaume Soro. Une élection boycottée par plusieurs députés de l'opposition. D'Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
Amadou Soumaoro, nouveau président du Parlement ivoirien, le candidat du RHDP, la coalition au pouvoir, a obtenu 153 voix contre 3 à son adversaire du PDCI, à l'issue d'un vote boycotté par les groupes parlementaires PDCI, Vox Populi et RACI, qui entendaient ainsi dénoncer le mode de scrutin choisi pour cette élection du président du Parlement. Isidore Yapi-Kouadio, député membre du groupe parlementaire PDCI.
C'est de la mascarade. Le RHDP est en train de confisquer le pouvoir. Tous les députés du PDCI, du Rassemblement, de Vox Populi, dénoncent, parce que nous sommes 3 groupes parlementaires ensemble pour lutter contre cette sorte d'anarchie à l'intérieur de l'hémicycle.
Belmondo Dodo, député membre du RHDP.
L'Assemblée a des règles, l'Assemblée a des principes. On a toujours voté à budget multiple. Même le président démissionnaire, pardon, M. Soro Diop, a été voté à budget multiple parce qu'il n'y avait que 2 candidats. Et en réunion de bureau, nous avons dit, si nous avons plus de 2 candidats, nous partons pour le butin unique. Mais dès l'instant que nous n'avons que 2 candidats, nous sommes revenus au règlement de l'Assemblée. Le butin multiple, et on a toujours voté à butin multiple à l'Assemblée.
Réaction de notre parlementaire, membre du RHDP, Bema Fofana.
Vous avez vu l'ambiance qui a prévalu aujourd'hui. Amadou Soumaoro est vraiment l'émanation du groupe parlementaire RHDP. Et ce groupe parlementaire RHDP, fort de plus de 150 députés, était aujourd'hui en fait bloc. Donc la majorité des députés de Côte d'Ivoire, le plus grand groupe, a choisi son candidat qui a été élu aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison qu'on dise autre chose.
Le nouveau président du Parlement ivoirien, dans son intervention, s'est voulu rassembleur, Amadou Soumaoro.
Notre ambition est de bâtir une grande famille dans l'hémicycle, où le travail sera certes notre préoccupation constante, mais aussi et surtout où le social sera le fondement de notre action. En clair, aucun député ne devrait se sentir seul, aussi bien dans la joie que dans la peine. Je voudrais insister sur l'esprit de solidarité qui doit nous animer.
Amadou Soumaoro succède à Guillaume Soro, contraint à la démission en février dernier en raison de son refus d'adhérer au RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition au pouvoir. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.